La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local,
c'est un mélange, la Collective.
C'est des interviews,
de l'actualité,
des chroniques, des reportages,
de la musique.
C'est divers et c'est varié.
La Collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à tous et bienvenue en direct dans la Collective de ce mardi 13 mai 2025. Aujourd'hui, c'est le club radio du Collège Armorin qui prend l'antenne de Radio Saint-Fréol et nous allons parler des coups de cœur des élèves qui participent chaque semaine à Radio Armo, notre club radio du Collège Armorin. Quelques éléments d'abord pour nous présenter. Radio Armo est un club que j'anime au collège depuis 7 ans maintenant. Donc je suis Florence Chambert, je suis documentaliste au collège et j'anime chaque semaine de 12 à 13 le club radio. Chaque année, nous accueillons environ 12 collégiens pour participer au club. Les séances sont sur la pause de midi, le mardi comme aujourd'hui. Pour cette collective, j'ai demandé aux élèves du club de partager leurs coups de cœur. Ça peut être des bandes dessinées, des romans, des films, des recettes. Vraiment, on a essayé de faire plein de choses différentes qui plaisent à des jeunes de 12 à 14 ans. Et tout d'abord, avant de commencer l'émission, nous allons écouter notre petit jingle pour finir de nous présenter.
Radio Armo. La radio de la cité Armorin.
Donc pour commencer cette collective, nous allons écouter Anouk qui va parler d'un coup de cœur pour un roman, Toby Lawlness de Timothée de Fombelle, édité chez Gallimard. C'est
merci.
À toi, Annie.
Merci, Anouk. Madame Chambert. Bonjour, je suis Anouk et je voulais vous parler d'un livre qui m'a vraiment passionnée. Ça a été pour moi un vrai coup de cœur. Je vous parle de Toby Lawlness qui a été écrit par Timothée de Fombelle. Timothée de Fombelle est pour moi un grand poète qui mélange réalité bouleversante et fantaisie surprenante. Ce que j'aime vraiment dans son écriture, c'est le côté avec plein de rebondissements et qui raconte des histoires palpitantes. J'aime son côté poétique qui fait toujours de l'émotion et le côté où dans Deux petits hommes, on peut y trouver autant de choses. J'adore cette écriture profonde que fait transporter sur le papier toutes ces émotions fantastiques accompagnées de ce monde merveilleux. Bon, revenons à Toby Lawlness, qui est la description parfaite du talent de cet auteur. En deux tomes, 1. La vie suspendue, 2. Les yeux d'Elisha, tous deux se passent dans un monde miniature sur un arbre. C'est plus précisément l'histoire de Toby Lawlness, un garçon ne mesurant pas plus d'un millimètre et demi. Son peuple habite le Grand Chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée, emprisonnée. Seul Toby Lawlness a pu s'échapper. Un grand récit se déroule ensuite avec de la tristesse, de la joie et de l'aventure. Plein de rebondissements inoubliables. Ce livre est aussi connu pour sa façon de nous représenter. Les petits êtres, nous, l'arbre, la terre. Et il montre que l'arbre est fragile et qu'il ne faut pas en abuser. Ce prix a reçu les prix Tam Tam, Saint-Exupéry, Sorcière, Lire au collège, et le premier tome a été traduit dans plus de 26 langues. On peut aussi trouver une adaptation en série animée de ce roman. Il a été édité par la maison d'édition Folie du Nord, qui l'a noté 10 ans et plus. Mais personnellement, je pense que ça intéresserait beaucoup les plus grands. Bon, eh bien, merci de m'avoir écouté. Et encore une fois, je vous recommande vraiment de le lire, grand ou petit.
Merci Anouk pour cette présentation. On ressent vraiment ton enthousiasme littéraire. On rappelle le titre du livre, Toby Lawlness, oui, de Timothée de Fombelle, édité par Gallimard. Et on continue cette émission, la collective de ce mardi, qui est donc, comme je vous le rappelle, animée aujourd'hui par le club radio du Collège Armorin. On va continuer avec une recette. Cette recette, elle nous est proposée par Vincent. Vincent, il n'a pas pu venir aujourd'hui, donc on a enregistré hier dans notre studio radio du collège, parce qu'on a la chance d'avoir un studio radio au Collège Armorin. Et donc, on a enregistré hier sa chronique, parce qu'on savait sa recette, parce qu'on savait qu'il ne pourrait pas venir aujourd'hui. On écoute Vincent.
Bonjour. Si je vous dis boisson et bulle, certains voient où je veux en venir. Je vous parle bien sûr du bubble tea. L'origine de cette boisson miraculeuse est taïwanaise. D'ailleurs, là-bas, on appelle ça un boba. De base connu pour être un mélange de thé, de lait et de perles de tapioca, et maintenant connu pour être surtout un concept. Par exemple, dans les restaurants, on peut vous en vendre, en guise de boisson, un sirop et des perles de sirop. Pour moi, c'est un coup de cœur au niveau des boissons. Pour cette expérience gustative hyper agréable, ne perdons pas de temps. Si vous nous écoutez, prenez la recette, sauf si vous êtes au volant. Vous prenez un verre de lait que vous faites chauffer une minute au micro-ondes, puis vous y mettez du thé ou de l'arôme de cacao, puis vous y versez des perles de tapioca que vous avez fait chauffer au préalable dans une casserole.
Merci Vincent de nous avoir proposé cette recette. Et vous, est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous avez déjà goûté le bubble tea ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous le dire ? Vas-y Arthur.
Moi j'aime bien. J'ai goûté la première fois en 2023. C'était au bord de la plage et depuis je suis un grand fan.
Alors moi, le bubble tea, si je devais décrire en un mot, même si ça paraît exagéré, je dirais divin. Alors pourquoi ? Parce que, comment dire ? Alors en fait, il y a deux sortes de bubble tea. Il y a des perles qui se mâchent en quelque sorte et d'autres qui éclatent dans la bouche. Moi, j'ai jamais goûté les perles qui se mâchent. Donc, mais en fait, les perles que j'ai goûtées, donc c'est de la gelée de fruits dans... du jus de fruits, voilà. Enfin bref, et c'est, en fait, comme ça éclate dans la bouche, c'est une sorte de satisfaction et j'aime beaucoup et voilà.
Eh bien, merci Célia de nous avoir partagé ton goût pour le bubble tea.
Alors, moi, j'en ai jamais pris, mais ça me donne super envie, là, que tout le monde en parle, avec toi qui décris la sensation, plein de choses. Je vais essayer d'en goûter un jour.
Pour le dernier Club Radio, on essayera de se faire du bubble tea. On apportera du bubble tea.
Ouais.
Et maintenant, Arthur va nous présenter une chanson qu'il a choisie. Arthur, toujours dans les coups de cœur du Club Radio. Arthur, c'est à toi.
Alors, bonjour à tous, je m'appelle Arthur. Je vais vous présenter une chanson japonaise qui s'appelle Natsu Matsuri. Elle est sortie en 1998 par Whiteberry, sortie plus tard dans l'album Atsu le 1er janvier 2000. Cette chanson est une recréation de la chanson du même nom, mais sortie par Jiterin Jin, sortie 8 ans plus tôt en 1990, toujours au Japon. En japonais, Natsu Matsuri veut dire « festival d'été ». Parlons un peu du groupe qui l'a faite. Whiteberry, le groupe est créé en 1994 par 5 écolières âgées de 9 ou 10 ans. Rencontrées à l'école de Kitami sur l'île d'Hokkaido au Japon, il se fait remarquer en 1999 par les membres du groupe Judy and Mary et signe un contrat avec Sony Music Japan. Malheureusement, le groupe se dissout après un concert d'adieu à Osaka Kobe en 2004. La chanson fait un succès fou que Taiko no Tatsujin, un jeu de rythme japonais, ajoutera à son catalogue de chansons à partir de leur deuxième opus. Je vous incite vraiment à l'écouter. Elle est très belle et offre un point de vue du rock japonais des années 2000. Whiteberry n'ont pas que fait Natsu Matsuri, ils en ont sorti d'autres, mais elle reste la plus connue. Sur ce, bonne écoute.
Kimi no kami
Nous venons donc d'écouter Natsu Matsuri, une chanson choisie par Arthur. Nous sommes toujours sur Radio Saint-Ferréol, dans la collective, et l'émission d'aujourd'hui est animée par Radio Armo, le club radio du Collège Armorin de Cré. Nous restons dans l'univers du Japon. Célia va nous parler d'un manga qu'elle adore, Les Carnets de l'Apothicaire. C'est à toi, Célia.
Bonjour, je m'appelle Célia et je vais vous présenter un manga qui m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment marqué. Les Carnets de l'Apothicaire, c'est un manga sensation tiré du roman à succès écrit par Natsu Yuga. Le manga est dessiné par Neko Kurage, de son vrai nom Erika Ikeda. Le manga est édité par les éditions Kiun, donc K-I-O-O-N. Le storyboard est réalisé par Itsuki Nanao. Ce manga s'est vendu à 1 million d'exemplaires rien qu'en France. Il offre à ses lecteurs une incursion dans la cour impériale. Nous y suivons l'histoire de Mao Mao, jeune fille de 17 ans, ayant été enlevée pour devenir servante au service de la cour impériale. C'est une protagoniste curieuse, ayant une passion sans nom pour les poisons. Elle a été élevée par son père adoptif, un apothicaire talentueux, habitant dans un quartier délabré, non loin du quartier des plaisirs. Ce manga mêle intrigue, enquête, pouvant plonger le lecteur dans un suspense extrême, ou bien le faire rire. Un mélange parfait entre mystère et amusement pour le plaisir des lecteurs qui n'ont pas été déçus par l'adaptation du roman. Un animé est également sorti, et les couleurs sont frappantes, l'animation fluide, bref, c'est un vrai bonheur pour nos yeux. Hélas, on reste encore dans le flou vis-à-vis du futur du manga, puisque la dessinatrice a été condamnée pour évasion fiscale. Je rappelle également que le manga touche quand même à des sujets sensibles, donc l'idéal serait de l'offrir à votre enfant dès 13 ans. Le manga m'a beaucoup plu car il a pour mérite de me plonger dès la première page dans l'histoire et j'adore le comportement de Mao Mao qui me rappelle celui d'un chat ou encore celui de Jinchi, un autre personnage qui est un personnage assez enfantin, amusant, etc. mais qui cache quand même des secrets. Et je vous laisserai le découvrir ainsi que tout l'univers. Et merci de m'avoir écouté.
Eh bien, merci Célia, ça nous donne très envie de lire ce manga. On rappelle le titre du manga, Les Carnets de l'Apothicaire aux éditions Kiun. Merci Célia. Et maintenant, Alice va vous parler d'un film. Je lui laisse vous dévoiler le titre du film dont elle va vous parler. Et on écoutera ensuite un extrait de ce film. C'est à toi Alice.
Je vais donc vous parler d'un film qui m'a beaucoup plu. Peut-être que vous le connaissez déjà. Sorti dans les années 1998, plus précisément le 28 octobre, il a remporté de nombreux prix, notamment le Golden Globe du meilleur acteur. Réalisé par Peter Weir, avec dans le rôle principal le grand Jim Carrey. Alors, vous avez trouvé ? Eh oui, je vous parle bien de The Truman Show. S'illustrant habituellement dans le registre comique, Jim Carrey s'essaie ici pour la première fois à un rôle dramatique. Un genre qu'il affectionnera par la suite avec des films comme Man on the Moon de Milos Forman et d'autres encore. Dans ce film, on ne retrouve pas que Jim Carrey. On peut aussi y rencontrer Laura Linney, Ed Harrison, Noah Emmerich et d'autres acteurs encore. Je vous résume. Truman, cet enfant né sous les caméras depuis son plus jeune âge, est suivi par le monde entier sans être au courant de ce qui se passe réellement autour de lui. Sa femme, ses parents, ses amis, tout est faux, tout est prévu. Un jour pourtant, un projecteur tombe du ciel aux pieds de Truman. Pressé de connaître la vérité qu'on lui a cachée toute sa vie, il va se lancer dans une véritable enquête pour connaître la vérité. Le film a d'ailleurs donné son nom à un trouble psychiatrique qui consiste à croire que sa vie est une émission de télé-réalité. Ce trouble bien réel porte désormais le nom de syndrome Truman. Je vous conseille vraiment de le voir et je vous remercie de m'avoir écouté. Tout de suite, un extrait du film.
Content parce que tu vas aller aux Fidji, c'est ça ? Eh bien vas-y, tu vois ? Je suis d'accord. Fais des économies pendant quelques mois et vas-y. C'est ça la solution. Alors, tu es content? Je vais prendre une douche.
Partons tout de suite. Je suis prêt. Pourquoi attendre? Un pierre qui roule, rien d'impossible. Et cœur vaillant, nul mousse tabasse.
Truman, où est-ce que tu vas?
Je ne sais pas encore, je fais dans la spontanéité aujourd'hui. À moi, au secours, je suis devenu spontané. Oh, oublions les Fidji, est-ce qu'on pourrait y aller par la route d'ailleurs? On met le cap sur Atlantic City.
Tu détestes le jeu.
Ah oui, c'est vrai, je déteste le gel.
Alors pourquoi veux-tu aller à Atlantic City?
Parce que j'y suis jamais allé. C'est pour ça que la plupart des gens voyagent, en général.
Trop mal! Je me sens mal, je crois que je vais vomir.
Et moi, non! Boucher à tous les carrefours. Magnifique synchronisation, tu ne trouves pas?
Tu vas me reprocher les embouteillages?
Je devrais.
Eh bien, merci Alice de nous avoir fait redécouvrir ce film The Truman Show. Il date de 1998, mais on peut dire que les thématiques sont vraiment d'actualité. Nous sommes toujours sur Radio Saint-Féréol et cette émission La Collective de ce mardi est animée aujourd'hui par le club radio du Collège Armorin. Pauline, qui a pris le micro, va maintenant nous parler d'une bande dessinée qu'elle adore et qui par ailleurs a beaucoup de succès chez les jeunes, c'est Les Enfants de la Résistance aux éditions Le Lombard.
Bonjour.
Pauline, c'est à toi.
Bonjour, je m'appelle Pauline et je vais vous parler de la BD Les Enfants de la Résistance. Une BD écrite par Benoît Hers et Vincent Dugommier, des éditions Le Lombard. C'est l'histoire de trois enfants qui ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se nomment François, Euseb, Lisa. Lisa, une réfugiée belge qui a perdu ses parents, se fait adopter par les parents de François, qui est un adolescent de 13 ans, habitant le village de Pontin-l'Écluse. Avec son meilleur ami Euseb et sa nouvelle complice Lisa, il commence à résister contre l'occupant suite à la mort de Martin, le jeune éclusier. Pour commencer leurs actions, ils vont imprimer des tracts. J'ai beaucoup aimé cette BD car je suis passionnée par cette époque historique pleine d'aventures. Il existe 9 tomes et l'adaptation en roman. Surtout, je vous le conseille. Maintenant, nous allons vous présenter une petite scène du tome 1. Dans cet extrait, ils ont commencé à résister car les Allemands ont collé une affiche qui a fait peur à Lisa.
Tu as volé le jeu d'imprimerie de l'école ?
Il le fallait. Les Allemands continuent à vouloir se faire passer pour des gentils. Tu as vu leurs affiches ?
Non.
Il faut dire aux gens qu'ils mentent. On ne peut pas les laisser parler et se taire.
Tu veux imprimer un prospectus ? Mais où trouves-tu toutes ces idées ?
Mon papa raconte que pendant la guerre de 14-18, de petits groupes de patriotes ont été très actifs. C'était dans le nord du pays occupé par les Allemands, comme nous maintenant. Ils ont fait des tas de choses. Espionner, aider les prisonniers de guerre évadés, saboter. Parfois, ils organisaient un attentat, des trucs dans le genre.
T'es fou, on est beaucoup trop petits pour faire ça.
Oui, mais si la guerre dure longtemps, on grandira et... Tiens, Lisa ?
Où court-elle si vite ? Lisa !
Mais pourquoi tu fais ça ?
Aidez-moi, je ne veux pas que les soldats viennent me chercher. Aidez-moi, je ne veux pas aller en Allemagne.
Ce sera plus difficile de retrouver tes parents sans l'aide des panneaux.
Mes parents, ils sont si gentils, eux non plus n'aiment pas Hitler.
Mais bien sûr, Lisa, il ne doit pas avoir grand monde qui l'aime dans nos deux pays.
C'est ça, votre fameuse affiche ? Faites-le gai, j'ai une bonne idée. Ça fait un de ces biens.
Tu as mis le doigt dans l'engrenage, Joseph. Bienvenue dans le clan du refus.
Eh bien, merci Pauline, merci Anouk et merci Alice pour nous avoir interprété ce passage des Enfants de la Résistance. Oui, Alice ?
Moi, je voulais dire que j'ai aussi beaucoup aimé cette BD parce que je trouve qu'elle peut vraiment plaire à plusieurs âges et en rigolant un peu, ça parle quand même vraiment de la guerre et je trouve que c'est super.
C'est vrai que cette BD est très intéressante. Donc, on rappelle le titre, Les Enfants de la Résistance aux éditions Le Lombard. Merci, Pauline. Nous sommes toujours dans la collective et nous allons maintenant écouter une chanson choisie par Célia. Célia, peux-tu nous parler de cette chanson et pourquoi tu l'as choisie ?
Alors, je vais également vous parler d'une chanson qui me tient particulièrement à cœur. C'est La Loi du Papillon de Nuit Incolore. L'album porte ce même nom et c'est ma chanson préférée parmi toutes. En tout, l'album est composé de 16 chansons. L'artiste a parlé de son album en disant « C'est le plus gros projet de ma petite vie, une ponctuation dans mes compositions. Dans ce premier album, je vous propose de découvrir le parcours de mon âme. » Personnellement, j'ai découvert La Loi du Papillon en regardant de courtes vidéos sur YouTube. C'était que le refrain, à vrai dire, mais après, je me suis empressée de l'écouter en entier parce que, en fait, personnellement, je trouve que le refrain, c'est le meilleur moment de la chanson et voilà, c'est mon avis. Mais voilà, j'ai beaucoup trop aimé la chanson. Je trouve qu'elle est, elle est, elle est très belle, même si les paroles sont un petit peu mélancoliques. Et bah voilà, je voulais en parler parce que j'ai envie que les gens sachent qu'elle existe et qu'ils l'écoutent.
Merci Célia, on écoute la chanson La loi du papillon.
C'est dans les cendres que je t'attendrai, comme une dernière offrande. L'espoir ne sait plus défendre. Quelques mots doux s'envolent de ma tête, pliés en deux, ce sont des vœux qui jamais ne s'arrêtent. Quand le jour m'abîme de sa sombre folie, j'accumule les sourires sans savoir que ça m'envenime. Et dans la course contre le glas, Morphée n'héritera que de la forme de mes draps. J'entends les papillons qui s'envolent loin de moi, fuyant la pointe de mes doigts, je me retrouve seul dans le froid. J'entends les papillons qui s'envolent dans le noir, et quand faneront les lilas, qu'adviendra-t-il de mon histoire? Je vois le monde comme une dystopie, sans précepte à l'inception. On s'adore, on se rejette, et le tout sans émotion. Un homme qui ne rêve pas, ce n'est pas si dérangeant. Parler de cauchemar, ça plombe les bons vivants. Un coup de sommeil qui gangrène mon cœur. Je veux bien quelques conseils pour tromper mon porte-malheur. Et dans la course contre le glas, Morphée n'héritera que de la forme de mes draps. J'entends les papillons qui s'envolent loin de moi, fuyant la pointe de mes doigts, je me retrouve seul dans le froid. J'entends les papillons qui s'envolent dans le noir, et quand faneront les lilas, qu'adviendra-t-il de mon histoire? Plus autant qu'avant, quand j'avais encore la vision d'un enfant. Je vois tes papillons qui s'envolent au gré du vent. Je les suivrai lentement, même jusqu'au soleil couchant. J'entends les papillons qui s'envolent loin de moi, fuyant la pointe de mes doigts, je me retrouve seul dans le froid. J'entends les papillons qui s'envolent dans le noir, et quand faneront les lilas, qu'adviendra-t-il de mon histoire?
Après cette chanson choisie par Célia, La loi du papillon, nous allons avoir un petit dessert. En effet, Apolline nous a préparé des rochers coco et elle va nous en donner la recette. C'est à toi, Apolline.
Bonjour, je m'appelle Apolline et je vais vous présenter la recette des rochers coco. J'ai voulu faire cette recette parce que c'est une recette que j'aime bien et c'est facile à faire. Par contre, il faut aimer la coco. Alors, sortez les crayons. Pour les ingrédients... Pour 6 personnes, ça fait à peu près 20 rochers, mais en fait, ça dépend la taille des petites boules. Il faut 200 g de noix de coco râpées, 80 g de sucre, 3 blancs d'œufs. Après, pour le matériel, il y a besoin de 2 saladiers, de 1 bol, d'un batteur électrique avec les petits fouets et d'une cuillère en bois. Alors, il faut commencer par séparer le blanc du jaune. Après, il faut monter les blancs en neige. Après, dans le deuxième saladier, il faut mélanger le sucre et la coco. Et après, il faut incorporer petit à petit le mélange sucre-coco au blanc. Après, il faut mélanger et faire des petits rochers avec la cuillère ou avec ses mains et les mettre sur la plaque de cuisson. Après, pour la cuisson, il faut les mettre au four pendant à peu près 20 minutes à 180 degrés. Et après, la meilleure étape, manger. attention, il faut décoller les rochers dès la sortie du four parce que sinon ça colle. Et si on veut que ce soit encore plus gourmand, on peut faire fondre du chocolat et on peut tremper les rochers dans le chocolat.
Eh bien, merci Apolline. Et puis, merci doublement parce que Apolline, eh bien, chers auditeurs, elle nous a préparé des rochers au chocolat, des rochers coco au chocolat. Et ils sont très bons, n'est-ce pas Tina?
Ah oui, j'ai goûté. Franchement, Je remercie vraiment tes talents de cuisinière, c'est incroyable.
Donc on mettra en lien la recette, on l'écrira, on la mettra en lien sur le site du Collège Armorin. Merci à Pauline pour les rochers coco. Il y a Alice aussi qui voulait nous dire un petit mot.
Cette recette, elle est vraiment très bonne. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut même les manger le lendemain, froid. Et en fait, ça reste croquant et fondant à l'intérieur. Du coup, vraiment, je vous conseille vraiment, vraiment de le faire. Merci à Pauline.
On continue avec Tina, qui va nous parler d'une série de romans qui rencontre depuis de nombreuses années aussi beaucoup de succès chez les jeunes. C'est la série La Guerre des Clans. C'est à toi, Tina.
Bonjour, je m'appelle Tina et je vais vous parler de La Guerre des Clans. Déjà, un petit mot. La Guerre des Clans, pour moi, c'est vraiment une découverte incroyable. J'adore tellement cette série. Je trouve là, il y a tellement de poésie, tellement de vrai dans l'histoire. Ça raconte vraiment quelque chose d'actuel et pourtant la série est publiée depuis 2003 aux éditions Pocket Jeunesse. La série est écrite par Erin Hunter, qui est en fait le pseudonyme de plusieurs auteurs et autrices. La série a rencontré un franc succès et est restée longtemps un best-seller. Cette série rassemble une immense communauté de fans qui échangent leurs idées et théories sur les réseaux sociaux par exemple. Aujourd'hui, la série est composée de 8 cycles, de 6 tomes chacun. Il y a aussi eu des adaptations en BD et des histoires parallèles comme des hors-séries ont été écrits. Bon, ceci étant dit, parlons maintenant un peu de l'histoire. Je vais vous la résumer en quelques mots. C'est d'abord dans le premier tome, on suit l'histoire de Rusty, un jeune chat roux domestique qui va rapidement faire la rencontre d'un jeune chat qui va devenir son meilleur ami. Quelques mois plus tard, il va intégrer le clan du tonnerre sous le nom de Nuages de Feu. Toutes les lunes, les quatre clans, donc le clan du vent, le clan de l'ombre, le clan du tonnerre et le clan de la rivière, se retrouvent dans une clairière. Cette clairière est dans un endroit neutre. On peut y trouver un grand rocher d'où les chefs des quatre clans s'adressent à la foule. Ce rituel se passe toutes les lunes. C'est vraiment très important dans l'histoire du roman, car ça peut aussi donner lieu à des conflits comme à des alliances. Bon, maintenant, je vais vous parler un peu des défauts et des avantages de la série. Donc d'abord, on va parler des défauts. Des défauts, désolé, mais il y en a beaucoup. Déjà, certains thèmes sont très mal abordés par les auteurs. Par exemple, ils veulent faire passer des messages, mais parfois c'est vraiment maladroit, comme le thème de l'abandon, de la vengeance, ou même du sentiment d'abandon. Il y a d'ailleurs aussi des problèmes de traduction. Certains chats changent de couleur de pelage, ou même de nom à certains moments. Ces erreurs sont du coup liées à la traduction, car c'est une série anglaise. Enfin oui, du coup, elle est forcément traduite en français à un moment. Maintenant, parlons des avantages. Déjà, en avantage, on peut parler que les chats sont très très personnifiés. Ils ont vraiment des attitudes d'humains. Aussi, on peut très facilement s'identifier aux chats et aux personnages de ce roman, ce qui en fait quelque chose de vraiment très populaire. Donc j'espère que cette petite présentation de La Guerre des Clans vous aura plu. Et merci de m'avoir écouté.
Merci Tina. Donc on rappelle le titre et l'auteur et l'édition, s'il te plaît, de cette série de livres.
C'est La Guerre des Clans, écrite par Erin Hunter et aux éditions Poker Jeunesse depuis 2003.
Très bien. Merci beaucoup Tina. Est-ce que vous avez envie d'en parler de La Guerre des Clans? Est-ce que vous aimez? Non, pas plus de réaction. Tu vois, c'est toi qui es une grande fan. Voilà, il y a une collègue qui m'a dit que sa fille, quand elle avait découvert cette série, elle a dit qu'elle avait découvert la vie grâce à cette série. Bon, elle a 10 ans, hein, mais elle a encore le temps de découvrir la vie, mais en tout cas, elle avait adoré aussi. On enchaîne avec Lénie. Lénie va vous parler d'un film, mais on va d'abord lancer un extrait du film et ça sera à vous, chers auditeurs, de deviner de quel film il s'agit. Et on écoutera ensuite Lénie qui nous parlera de ce film.
Je capte, c'est bon, être respectueux, j'ai pigé, j'ai mis ma veste 1 million de fois, je l'ai enlevée 1 million de fois, ok, c'est débile, j'ai ma dose, ils n'ont qu'à me tabasser s'ils veulent. Et vous savez pourquoi vous n'avez qu'un seul élève? Vous êtes nul au kung-fu.
C'est Audrey.
Quoi?
Tu viens ici. Mets ta veste.
Monsieur Han, je l'ai
mets
déjà
dit. Mets ta veste. Mets ta veste.
Mais sans ma veste, je peux
mets
pas la...
Mets ta veste. Sois fort. Mets ta veste. Ferme. Enlève ta veste. N'oublie pas. Toujours fort. Enlève ta veste. Recule les pieds gauche. Recule les pieds droits. Recule les pieds gauche. Ramasse ta veste.
Wow, monsieur.
Concentration.
Okay.
Toujours attentif. Recule les pieds gauche. Recule encore. Ramasse ta veste. Reste là. Ramasse ta veste. Sois fort. Accroche ta veste. Accroche ta veste. Accroche ta veste. Attitude. Frappe. Accroche. Attitude. Encore. Encore. Bien.
Je ne sais pas si vous avez deviné, mais je parle du film Karate Kid. Bonjour, je m'appelle Lenny et je voulais vous présenter un film que j'ai adoré. Du coup, c'est Karate Kid. Je parle bien de celui créé en 2010, le remake du Karate Kid de 1984. Les acteurs principaux sont Jaden Smith, qui joue le rôle de l'enfant qui apprend le kung-fu, Wei Wen Han, qui joue le rôle de professeur. Le réalisateur s'appelle Harald Zohar. Le film a été tourné principalement, majoritairement en Chine et le début aux États-Unis. Dans le film, une mère et son fils, qui s'appelle Dr. Parker, ils déménagent en Chine, plus précisément à Pékin. Ils arrivent dans un petit appartement et se fait déjà un ami. Il s'installe, puis va au parc avec son ami. Il joue au basket, puis il voit une fille qui s'appelle Mei Ying. Et il tombe amoureux. Il va lui parler, mais le cahier de son futur collège s'interpose. Et il commence à se bagarrer. Mais celui qui s'est interposé pratique le kung-fu. Donc, il va lui mettre une raclée. Après, il rentre chez lui, puis le lendemain, c'est la rentrée. Il met son uniforme, mais il ne sait pas qu'il a des jours précis pour mettre son uniforme. Donc, c'est pas le bon jour. Puis, il va en cours, et à la fin des cours, il voit Mei Ying. Mais entre-temps, il voit le caïd, donc il commence à courir pour fuir. Mais il arrive dans une salle pour se réfugier, et c'est la salle où Mei Ying fait son entraînement de violon. Voilà, je vais pas tout vous spoiler, mais je vous conseille de le voir. J'ai beaucoup aimé ce film.
Lenny, tu peux nous rappeler le titre du film ?
Karate Kid.
Réalisé par ?
Par Jaden Smith, Wei Wen Han et Harald Zohar.
Merci beaucoup pour nous avoir parlé de ce film. Bon, bien, merci à tous pour cette collective. Donc, c'était le club radio du Collège Armorin, Radio Armo, qui a animé cette émission. Merci à tous les auditeurs. Et voilà, on va pouvoir redire, vous allez pouvoir tous les élèves redire vos prénoms. On y va ?
Alice,
Lenny,
Apolline,
Tina,
Arthur,
Célia,
Anouk,
Pauline.
Merci à Radio Saint-Féréol pour
et
votre...
Vincent.
Et Vincent,
et
ah oui, qui n'a pas pu venir, mais on a écouté sa chronique. Merci à Radio Saint-Féréol pour votre accueil. Merci à Romain qui a assuré la technique aujourd'hui. Merci aux animateurs de Radio Saint-Féréol qui nous accompagnent dans nos projets. Je pense à Théo, Franz, Laure, Manu. À bientôt sur Radio Saint-Féréol ou sur Radio Armo. À bientôt. Merci à tous.
Merci à Madame Chauvert.
Au revoir.